Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 18h sur Radio Aviva.
Radio Aviva, le flash local.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi 15 avril, territoire innovant. Le 2 avril dernier, la métropole de Montpellier a reçu le label Territoire innovant pour sa convention sur l'intelligence artificielle. Ce label entend mettre à l'honneur le travail mené par les citoyens et les agents qui les ont accompagnés. Il faut savoir que la convention en question rédige des préconisations sur l'IA pour les habitants et le territoire de la métropole. Préconisations qui seront présentées au grand public le 24 avril prochain lors de l'Agora des savoirs sur l'IA et la démocratie. Prolongation du Certiphyto d'ANSA. Le 1er février dernier, le gouvernement a décidé de prolonger d'un an la durée de validité des Certiphyto arrivant à échéance d'ici le 1er mai 2025. L'objectif, ne pas générer de situation de blocage empêchant les agriculteurs d'acheter et d'utiliser des produits de protection des cultures. En conséquence, les détenteurs de Certiphyto d'ANSA valides jusqu'au 1er mai 2025 peuvent acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques sans avoir à effectuer de démarches particulières. Les certificats arrivant à échéance entre le 10 avril 2024 et mai 2025 feront foi. Enfin, précisons que dans le cas d'un certificat expiré à ce jour, il est possible d'en obtenir un provisoire auprès de la DRAF. Entreprise du patrimoine vivant du grand art. La cérémonie de remise des diplômes de 22 nouvelles entreprises labellisées Entreprise du patrimoine vivant a eu lieu le 5 avril dernier en présence du président de l'Institut pour le savoir-faire français. Avec une durée de 5 ans, ce label d'État est le seul à récompenser les entreprises françaises artisanales et industrielles au savoir-faire rare et d'exception. Une reconnaissance nationale et internationale qui constitue un atout pour favoriser le développement de ces entreprises. Cette année, la France compte 1035 entreprises du patrimoine vivant, bénéficiant de près de 14 milliards d'euros. Dans le cadre de la stratégie nationale en faveur des métiers d'art, l'objectif est désormais de s'ouvrir à 2500 entreprises. En Occitanie, aujourd'hui, 91 entreprises sont détentrices du label « Entreprises du patrimoine vivant ». On fête l'art Léonard. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de l'art. Mise en place en 2019 par l'UNESCO, cette date ne tient pas du hasard. Il s'agit en effet de l'anniversaire de Léonard de Vinci. Il s'agit donc en cette journée d'encourager la diversité culturelle et sa diffusion, l'art nourrissant la créativité, l'innovation et la diversité culturelle pour tous les peuples et jouant un rôle primordial dans le partage des connaissances et l'encouragement de la curiosité et du dialogue. Il y a donc beaucoup à apprendre, à partager et à célébrer à l'occasion de cette journée mondiale de l'art. Aussi, l'UNESCO invite chacun à participer à toutes sortes d'activités telles que débats, conférences, ateliers, manifestations culturelles ou exposition. C'est la fin de ce Flash Info du lundi 15 avril. À bientôt sur Radio Aviva.
La météo dans les Hauts.
Bonsoir à tous. Ce soir, le ciel est dégagé sur l'ensemble du département. Les températures descendront à 19 degrés en moyenne durant la soirée avec des pointes à 14 durant la nuit à Lunel. Demain mardi, un ciel légèrement nuageux sera au rendez-vous. On attend 12 degrés à Montpellier le matin et 19 degrés à 7 l'après-midi. Je vous souhaite de passer une belle soirée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
For sure, you'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change, and though my love is. I don't know where my soul is. I don't know where my home is.
l'actualité de vos sorties nocturnes
à Montpellier et dans l'Hérault.
Bienvenue dans Tempo. Cette semaine, je vous propose trois événements. Vendredi 16 avril, de minuit à 6h du mat, le PZ City Club reçoit YouMake. Il sera accompagné de Cyril M en room 1 et Cave en room 2. Entrée 15€. Le PZ City Club, c'est 4 quais du Verdanson à Montpellier. Samedi 20 avril, de minuit à 5h, à l'Antirouille, In the Wood, avec Criff et Charbonnier, Théo Léo et La Marmaille. Entrée 10€. L'Antirouille, c'est 12 rue Anatole France à Montpellier. Dimanche 21 avril, de 19h à 23h, au Rockstore, My Life is a Week présente Club Sandwich, avec Kink et Dylan en mode Boiler Room. Entrée 20€. Le Rockstore, c'est 20 rue de Verdun à Montpellier. Voilà, Tempo c'est terminé. Je vous souhaite de bonnes sorties sur vos spots préférés.
Tempo,
l'actualité de vos sorties nocturnes
à Montpellier et dans les Rhônes.
Passez notre amour à la machine. Faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant. Matisse l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la vie les tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. La misère de nos gentils petits grands-pères, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'or revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant. Allez, à la machine.
Les sorties et les loisirs dans les roues.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre agenda. Voici les événements et les sorties à venir.
Un jeu de loi grandeur nature. Ce jeudi 18 avril, dans les jardins du château de Flaugergue, amusez-vous à lancer un dé géant et à devenir les pions de ce jeu de loi grandeur nature, tout en répondant aux questions que le maître du jeu vous posera. Une activité spécialement conçue pour les enfants. Concernant les prix pour y participer, le tarif est de 15€ pour les plus jeunes et de 8€ pour les accompagnateurs. Plus d'informations et réservations sur le site du château de Flaugergue. Daddy, c'est le nouveau nom du spectacle mis en scène par Marion Sieffer que les spectateurs pourront retrouver le 18 et 19 avril au théâtre Jean-Claude Carrière de Montpellier. Sensible au sujet touchant les jeunes générations, l'artiste signe avec cette nouvelle pièce un conte noir magistral. Mara, 13 ans, fuit la morosité à travers des univers virtuels étincelants, mais l'aventure pailletée virera au cauchemar quand elle se retrouvera enchaînée dans un jeu en ligne intitulé Daddy. Billets à partir de 17€, déconseillés aux enfants de moins de 15 ans. Trouble, l'art d'être en vie. Du 18 au 20 avril, tous les soirs à 20h30, retrouvez ce nouveau spectacle d'Anaïs Kaizouran au Trac Théâtre à Castelnau-le-Lez. Avec cette performance, elle garantit aux spectateurs une expérience unique à travers un voyage sensoriel et émotionnel. Concernant les tarifs, les billets sont à partir de 16€. Plus d'informations et réservations sur le site internet du théâtre. C'est la 10e édition du Marathon Photo. Organisée par la Galerie du Bar à Photo, cette édition aura lieu cette année le 20 avril. Les participants auront 9 heures et 9 thèmes pour produire le même nombre de photographies. Les photos gagnantes seront exposées à la Galerie du Bar à Photo à partir de juin. Pour clôturer cette journée du 20 avril, un apéro suivi d'une projection sont également prévus. La participation est au tarif unique de 10€. L'événement est ouvert à tous, amateurs ou experts. Il est même possible de participer avec un smartphone. Toute cave ouverte à Montpérou. Le dimanche 21 avril, retrouvez cet événement œnotouristique. Bonne ambiance et vins de qualité seront au rendez-vous. Plus de 20 domaines accueilleront le public dans différentes caves et de nombreuses activités seront proposées dans le village. Plus d'informations sur le site internet vin-montpérou.com. C'est tout pour cet agenda. À bientôt sur Radio Aviva.
Oh, à mon notaire.
Question à mon notaire.
Une interrogation. Un notaire vous répond.
Bonjour et bienvenue à Question à mon notaire. Je suis maître Françoise Cadenne et je suis membre de la Chambre des notaires de l'Hérault. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du Pacs et du mariage. Donc, on va faire un petit topo rapide sur les points communs et les différences. Bon, tout d'abord, bon, il faut savoir que les deux, le point de départ du Pacs et du mariage, c'est la communauté de vie, bien évidemment, dont elle sera établie par un contrat pour le Pacs et régie par le Code civil pour le mariage, puisque le mariage est une institution, contrairement au Pacs, qui lui a été promulgué par la loi du 15 novembre 1999. Donc, dans les deux cas, que ce soit Pacs ou mariage, en cas de décès de l'un des conjoints, le survivant bénéficie d'un droit de jouissance gratuite du domicile commun et du mobilier pendant l'année qui suit le décès. Et dans les deux cas, que ce soit aussi bien dans le Pacs que dans le mariage, l'imposition commune est obligatoire. Ça fait partie des points communs. Ensuite, s'en suivent beaucoup de différences. Contrairement au mariage, le Pacs ne produit aucun effet sur le nom d'usage, c'est-à-dire qu'évidemment les conjoints gardent chacun leur nom. Hein, voilà. Le Pacs n'oblige pas un devoir de fidélité, contrairement au mariage, hein, puisque bon, le mariage est régi par les règles du Code civil. Voilà. Et le Pacs ne présume pas de la paternité de l'enfant né pendant l'union du couple. Ça, c'est tout à fait une grosse différence avec le mariage. Voilà. De même, le devoir de secours, qui est quelque chose qui est instauré par le Code civil, c'est une obligation légale du mariage, est ramené à une simple assistance réciproque et aide matérielle dans le Pacs. Donc tout ça sont des différences quand même relativement importantes, mais la différence essentielle qui est vraiment importante entre le Pacs et le mariage, c'est l'absence de droits légaux pour les partenaires paxés dans la succession de leurs conjoints. C'est-à-dire que souvent les personnes pensent qu'en se paxant, ils deviennent obligatoirement, systématiquement héritiers l'un de l'autre. C'est absolument faux. C'est-à-dire que des conjoints paxés, pour qu'ils soient héritiers l'un de l'autre, il faut impérativement qu'ils fassent un testament. D'accord ? Donc dans ce cas-là, dans l'hypothèse où des conjoints paxés font un testament, bien évidemment, ils deviennent héritiers l'un de l'autre, selon ce qu'il y a écrit dans le testament, bien évidemment. Ces droits légaux, par contre, existent dans le mariage. C'est-à-dire, dans le mariage, on n'a pas besoin de faire un testament ou une donation entre époux pour que le conjoint soit héritier. On est héritier de plein droit. Alors, avec des quotités différentes, bien évidemment, si on a des enfants d'un premier lit ou que des enfants communs, mais le conjoint, dans le mariage, est héritier ab intesta. Alors que dans le Pacs, il faut impérativement faire un testament pour devenir héritier de son conjoint. Par contre, une fois que ce testament est établi au profit d'un partenaire paxé, il bénéficie des mêmes droits que le conjoint, c'est-à-dire l'absence, l'exonération totale des droits de succession dans la succession de son partenaire. Donc ça, c'est important. L'autre différence énorme qu'il y a entre le Pacs et le mariage, c'est l'absence de reversion de retraite de son conjoint. Voilà, donc quand on est marié, évidemment, en cas de décès de son conjoint, on bénéficie de la reversion de retraite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quand on est paxé, on ne bénéficie pas du tout de la reversion de retraite. C'est souvent pour cela que certaines personnes, des veufs ou des veuves, qui vivent en concubinage, ne se remarient pas, mais ne font qu'un Pacs pour pas se retrouver sans les droits à reversion de leur précédent conjoint. Donc ça, c'est vraiment deux différences vraiment fondamentales, et c'est souvent ce qui justifie le choix pour des futurs époux ou conjoints entre le mariage et le Pacs. Voilà. Après, concernant le coût d'un contrat de Pacs ou de mariage, c'est à peu près la même chose, c'est selon 350 ou 380 euros. Et souvent, on me demande si c'est obligatoire de passer chez un notaire pour se paxer ou pour se marier. Quand on veut faire un contrat de mariage, évidemment, le passage chez le notaire est obligatoire. Quand on veut se paxer, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé, notamment pour prévoir tout ce qui est liquidation en cas de rupture. Donc, j'espère que je vous aurai donné quelques petits renseignements concernant cette différence entre Pacs et mariage. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre notaire et retrouver l'émission en podcast sur le www.radio-aviva.com. Je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.
Question à mon notaire.
Question à mon notaire.
Une interrogation. Un notaire vous répond.
Sur la route, entre Nîmes, Montpellier et Perpignan, Radio Aviva.
Sans fidèle, chaque jour, pour la musique, l'info, la proximité. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Radio Aviva, le Flash Info.
Bonsoir à tous. France, Russie, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, les appels au calme et à la retenue se multiplient aujourd'hui encore après les frappes de drones et de missiles iraniens contre Israël pendant le week-end. Mais pour Eberhard Kinley, maître de conférence à Sciences Po et spécialiste du Moyen-Orient, il est difficile à ce stade d'anticiper la réaction israélienne suite à cette attaque.
Il faut être prudent, il faut penser que beaucoup de choses sont possibles, ce qui ne veut pas dire que tout est probable. On peut penser qu'Israël ou sur le gouvernement Israël réplique, attaque des intérêts iraniens ou même l'Iran. Maintenant, est-ce que ça arrivera ou non? On n'en sait strictement rien. Il y a certainement des pressions très fortes sur le gouvernement israélien de ne pas répliquer maintenant. Mais le gouvernement israélien, il fait un petit peu à sa tête et il ne prend pas toujours en question à ce stade les pressions, notamment américaines.
Et cet après-midi, suite à une réunion du cabinet de guerre israélien, le gouvernement assure qu'il se réserve le droit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre son pays. Donald Trump de nouveau devant un tribunal. L'ancien président américain jugé aujourd'hui à New York dans une audience au pénal dans l'affaire Stormy Daniels. Avant le début de l'audience, Donald Trump a dénoncé une persécution politique menée selon lui par son adversaire Joe Biden. En France, la mesure a été vivement critiquée par les motards. Elle entre en vigueur aujourd'hui. Le contrôle technique est désormais obligatoire pour les deux roues, mais cela concerne dans un premier temps seulement ceux immatriculés avant 2017. Emmanuel Macron a fait le point aujourd'hui sur les JO de Paris. Et le président a évoqué pour la première fois des solutions de repli pour la cérémonie d'ouverture prévue sur la Seine en cas de menace terroriste. En attendant, la flamme olympique sera allumée demain et la première relayeuse française sera Laure Manaudou, la triple médaillée de natation. Enfin, notez que le comité d'organisation des Jeux annonce de nouveaux tickets pour assister aux épreuves. 250 000 billets en tout qui seront mis en vente ce mercredi à 100 jours tout pile du début des JO. Voilà pour l'info. Bon début de soirée.
La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous. Ce soir, le ciel est dégagé sur l'ensemble du département. Les températures descendront à 19 degrés en moyenne durant la soirée, avec des pointes à 14 durant la nuit à Lunel. Demain mardi, un ciel légèrement nuageux sera au rendez-vous. On attend 12 degrés à Montpellier le matin et 19 degrés à 7 l'après-midi. Je vous souhaite de passer une belle soirée à l'écoute des programmes de Radio Aviva.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaye.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille avec beaucoup de plaisir ce soir Aline Bouix. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de Femmes 3000 Languedoc-Roussillon qui va fêter le 14 décembre prochain son 25e anniversaire. Alors, qu'est-ce que c'est Femmes 3000 hein? Un club, un mouvement, une association? Dites-nous tout.
Alors, c'est une fédération. C'est une fédération qui a effectivement, qui fête ses 25 ans avec des délégations dans chaque région, puisque je suis moi-même présidente donc de la délégation Languedoc-Roussillon. Alors l'objectif, vous allez me dire, mais quel est l'objectif d'une fédération, voire d'une association comme Femmes 3000, qui est en vérité femme du troisième millénaire.
Lancée par Michel Barzac, c'est ça hein?
Tout à fait, avant les années 1998, ça a été repris par Marie-Josée Grandjacques, qui en a fait ce qu'est effectivement notre fédération aujourd'hui, et qui est pour les femmes, avec les femmes, pour tout ce qui est égalité, parité, mixité, pour que la femme ait réellement sa place dans le monde économique, même dans le monde politique et bien entendu dans toute une dynamique sociale.
Alors, vous le disiez, présidente de la délégation Languedoc-Roussillon depuis 7 ans maintenant.
À peu près, environ 7 ans, oui.
Et avec la nécessité, en effet, d'encourager la visibilité des femmes dans la vie publique, économique et sociale. On sait que c'est une ambition majeure, évidemment, à conduire. On va y revenir. Est-ce que 25 ans après, cette fédération a encore toute son utilité, toute sa pertinence?
Oui, encore plus.
Ouais.
Encore plus, puisqu'aujourd'hui, ce que l'on souhaite un petit peu promouvoir, c'est cette parité, mixité et égalité. Et je le disais dernièrement lors d'un échange. Et est-ce qu'effectivement, on ne peut pas parler d'égalité et de parité dès la maternelle? On parlait effectivement, il est important aujourd'hui que tout le monde soit sensible à cette dynamique aussi de laïcité. Est-ce qu'il ne faut pas déjà en parler au niveau des maternelles, voire des petites classes, alors qu'aujourd'hui, on le fait au niveau de la sixième ou de la cinquième? Et je crois que le rôle d'une association comme la nôtre, c'est justement de promouvoir cette égalité homme-femme qui est quand même mise à mal aujourd'hui, quoi qu'on puisse en dire.
Mais comment ? Quels exemples avez-vous à l'esprit de sa mise en danger ?
Sa mise en danger, on le voit. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles qui aujourd'hui, peut-être ne s'habillent pas comme elles souhaiteraient s'habiller. On voit des jeunes femmes à qui on impose certaines choses, alors que peut-être elles auraient souhaité vivre autrement. On voit au niveau, puisque moi j'ai été nommée ambassadrice index salaire en 2022 par Muriel Pénicaud, on se rend compte qu'en termes de salaire, il n'y a pas totalement d'équité, puisque pour un même diplôme, on avait dans notre groupe une jeune ingénieure qui n'avait pas le même salaire que ses collègues pour avoir pratiquement la même école et la même fonction. On rencontre encore ça beaucoup moins, puisqu'il y a eu énormément de travail qui ont été faits à ce moment-là.
Diriez-vous qu'on régresse, on progresse?
Alors, on progresse. Non, il faut quand même être très optimiste. Moi, je suis extrêmement optimiste déjà de nature. On progresse énormément, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ne se font plus et on en parle. Alors qu'avant, on n'en parlait pas.
Donc, c'est plus un sujet tabou dans les entreprises, par exemple.
Exactement. C'est-à-dire, une jeune femme, ça m'est arrivé un jour, il y a une jeune femme qui m'a téléphoné, qui m'a dit, j'ai pas eu de prime, je suis responsable commercial, je n'ai pas eu de prime, mon collègue l'a eu, est-ce que c'est normal? Elle en parle, elle m'a dit, j'ai dit, mais non, tu vas voir ta RH, tu lui expliques les raisons pour lesquelles, pour un même poste, une même fonction, un même chiffre d'affaires, tu n'as pas eu la prime, effectivement, que ton collègue a eu. Donc, c'est encore des choses qui arrivent, mais elles en parlent. Elles ne subissent pas aujourd'hui des inégalités comme par le passé.
Ça veut dire aussi que les entreprises, les chefs d'entreprise, on sait que ça vient d'en haut, il ne faut pas se raconter l'histoire, ont pris le sujet à bras-le-corps ou c'est encore un peu timide chez les dirigeants, vous qui les rencontrez régulièrement?
Alors, je pense qu'ils ont compris, ils ont intégré, mais vous avez encore les anciens, vous savez, les vieux routards, qui vous disent, mais madame, on a toujours fait comme ça. Alors je leur dis, oui, mais on peut changer. Oui, mais moi, de mon temps, je suis d'accord avec vous, mais on peut changer, voilà. On a encore ces vieux routards sympathiques au demeurant, mais qui ont encore ces vieilles habitudes de, oui, mais on a toujours fait comme ça. La jeune génération de chefs d'entreprise, aujourd'hui, a très bien compris qu'à diplôme égal, salaire égal. Ça, ils l'ont totalement intégré. Mais bon, il y a encore un petit peu de travail, mais honnêtement, je suis quand même optimiste.
Alors, sur les salaires, vous le dites, mais sur les promotions, la nomination de femmes à des postes à responsabilité. Évidemment qu'on a beaucoup progressé dans de nombreuses entreprises, mais il faut qu'elles fassent leur place encore, les femmes, on le voit bien.
Et oui, dans les CODIR, on le voit tous les jours. Alors je vais vous raconter rapidement une petite anecdote.
Bien
justement,
sûr.
Je vais dans une réunion il y a quelques années, et il y a une personne qui vient voir qui me dit, madame, vous savez, nous au CODIR, on a des places, mais on n'a pas de femmes. Je dis, écoutez, qu'à cela ne tienne, vous en voulez combien? Parce que vous en voulez 5, 10, je voulais... Non, mais si, vous allez voir, c'est des femmes brillantes. Et on a même monté avec quelqu'un la Sorbonne à l'époque, on a fait un petit livret avec tous les CV qu'on a envoyés aux grosses entreprises nationales en leur disant, voilà, puisque vous ne trouvez pas de femmes pour vos conseils d'administration, eh bien nous on va vous aider, on vous envoie des CV de personnes qui sont en capacité de vous rejoindre demain.
Il faut donc bousculer aussi les habitudes, c'est ce que vous dites.
Oui. Et alors il faut des associations quelque part comme les nôtres, mais sans leur faire peur. Parce que ces messieurs ont parfois un petit peu peur.
Vous croyez vraiment que les messieurs ont peur?
De ce côté féministe, moi, du coup, on me dit, oui, mais les féministes, dans leur bouche, c'est négatif. le côté féministe et négatif. On essaie de leur faire comprendre qu'au contraire, c'est pour eux, c'est pour travailler avec eux. Et moi, je dis souvent, on est plus fort à plusieurs. Messieurs, venez avec nous. C'est pour ça que moi, je prône au niveau de femmes 3000, voire 3e, du 3e millénaire, puisque c'est le terme de départ. Je prône cette mixité pour qu'on avance ensemble, parce qu'en avançant ensemble, on sera plus fort.
Oui, or c'est aussi un sujet sur lequel vous insistez beaucoup. En effet, on ne peut pas être l'un contre l'autre. Et trop souvent, il est vrai qu'on a eu des discours qui pouvaient tendre vers cela. Et ça n'effraie pas que les hommes, ça peut effrayer des organisations d'entreprise.
Mais tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que moi, je préfère en parler en toute bienveillance et en toute empathie, en disant, messieurs, on a besoin de vous. Moi, je dis souvent au niveau de ma délégation, messieurs, je vous attends. On a des messieurs et c'est ceux qui sont les plus actifs dans les actions que l'on mène, et je trouve ça extraordinaire. Et j'avais fait faire des t-shirts il y a 3-4 ans, ou avec Femmes 3000 sur le devant, et bien les messieurs les portaient, ils disaient on est fiers d'être Femmes 3000. Mais ça, c'est extraordinaire.
Et aussi, les femmes doivent prendre leur place. C'est-à-dire ne pas attendre, et vous parliez de l'éducation tout à l'heure, ouais, qu'on leur donne la place finalement.
C'est ça, c'est ce qu'on dit très souvent aux femmes. Vous savez, moi, j'ai
assez facile
travaillé
à dire peut-être, plus difficile à faire.
Ouais, moi j'ai beaucoup travaillé dans la pétrochimie à l'époque, il y a 30 ans, c'était quand même pas triste. Je dis souvent, plaisantant, quand j'arrivais quelque part, on me disait, c'est quoi ça là-bas? Le ça, c'était moi.
Oui, d'accord.
Mais bon, c'est pas grave. Et dans l'industrie, et je dis, moi j'ai donné des cours en école de commerce, et je disais aux jeunes filles, c'est à vous de faire votre place. C'est à vous, effectivement, entre guillemets, de vous imposer par vos compétences. Par vos compétences, et vous verrez, le chemin sera beaucoup plus facile. Et aujourd'hui, on a des femmes qui sont chefs de chantier. C'est extraordinaire. On a des femmes qui ont fait un diplôme d'électricité et qui travaillent dans les entreprises. Donc, je veux dire, on a quand même pas mal évolué par rapport à tous les métiers dits masculins.
Il y a donc un mouvement global nécessaire, et on le voit bien à la CAPEB, dans les fédérations de bâtiments, où
tout
en effet,
fait.
Dit métier masculin. Les femmes ont pris le pouvoir, ont pris la place, à la fois par leurs compétences, leur savoir-faire, et aussi par la nomination, la responsabilisation.
Oui, oui, oui. Et ça, c'est important parce que c'est un bon exemple pour les jeunes. De dire, donc, je peux y arriver aussi. Et souvent, ce que l'on regrette, je sais que moi, dans mes délégations, ils ont mis en place une formation parole en public. C'est-à-dire, comment arriver à se présenter, qu'une jeune femme peut se présenter sans crainte et sans qu'on lui coupe la parole. Et je lisais dernièrement un article, on disait, mais souvent, on coupe la parole aux femmes. Comment on la coupe pas quand deux messieurs échangent ensemble? Et donc, je dis, ben, vous ne devez pas accepter qu'on vous coupe la parole. Vous dites simplement, excusez-moi, je n'ai pas terminé. Mais il ne faut pas subir. Si vous subissez, ben, vous donnez la place à l'autre. Donc, on est dans une égalité de propos et d'échanges. Voilà, il faut qu'elle l'intègre.
Et l'éducation, forcément, joue un rôle. Vous l'avez dit, au collège, beaucoup au lycée, on en parle, mais probablement que dès l'élémentaire, il faut pouvoir rencontrer les jeunes filles et les garçons pour leur dire qu'on vit dans un monde d'égalité.
C'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va dans les collèges, mais pour moi, c'est trop tard. Mmh. Les mauvaises habitudes sont déjà prises. Donc, les bonnes habitudes se prennent au CP, et je dirais même plus loin, à la maternelle. C'est-à-dire, oui, au CP, on va dire aux enfants, garçons et filles, qu'ils ont le droit de faire les métiers qu'ils choisissent, qu'ils ont le droit de dire non, qu'ils ont le droit de ne pas accepter, qu'ils ont le droit, effectivement, aujourd'hui, toutes les femmes font tous les sports possibles, hein, que ce soit le rugby, alors qu'avant, c'était inconcevable. Jamais une femme n'aurait fait du rugby ou du foot. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, c'est qu'on évolue dans le bon sens.
Vous faites la parfaite transition. Aline Bouix, présidente de Femmes 3000 pour la délégation Languedoc-Roussillon. Vous êtes notre invitée ce soir sur Radio Aviva pour parler du sport. Je vous sais très attachée à cette question-là. On a cheminé ensemble sur des débats et des forums à Midi Libre autour de la place des femmes dans le sport. Et on voit que là encore, c'est pas gagné. Hein.
Et non, c'est pas gagné. Moi, on est partenaire de l'équipe de handball féminin sur Montpellier. Et on les aide un petit peu dans cette dynamique d'entraînement et autres. Et la présidente me disait dernièrement qu'il y a des infrastructures sportives sur Montpellier où jouent effectivement les sports masculins qui ne sont pas utilisés et qui ne sont pas prêtés ponctuellement à des clubs féminins. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi, et la réponse qu'on m'a faite, c'est on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Le on ne sait jamais, on peut en avoir besoin, il faut qu'on m'explique un petit peu, parce que j'ai dû rater un épisode ou un point, une virgule quelque part. Donc ce qui fait qu'elles sont dans des salles, des petites salles, elles aimeraient inviter plus de monde parce que les gens sont intéressés pour voir des matchs, et il n'y a pas de place. Alors que dans d'autres lieux, sur Montpellier, pour ne pas le citer, il y a des endroits où elles pourraient s'entraîner, on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Alors en théorie, on vous dit « mais bien sûr ». Mais jamais en pratique. Moi, j'aimerais poser la question à tous ces présidents de clubs de la région. Messieurs, pourquoi ?
Et vous en profitez.
Vous pourriez me répondre
à ce micro. Je sais qu'ils nous écoutent, ils sont très nombreux et j'espère qu'ils pourront apporter des réponses. Alors évidemment qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, on le voit bien, sur la place des femmes dans le sport féminin, avec des contre-exemples. Hein. On voit comment des clubs comme le MHSC, Louis Nicolin et Laurent Nicolin aujourd'hui ont soutenu des clubs sportifs. On voit aussi comment des fédérations essaient de faire de la place. Je pense au rugby, oui, le rugby féminin,
oui,
par exemple,
de plus en plus.
Le basket.
C'est vrai. C'est vrai. Mais pas suffisamment le hand.
Pas suffisamment le hand.
Par exemple, pour le hand féminin l'année dernière, les moins de 17 ans étaient championnes de France. Mm-hmm. Vous l'avez vu quelque part ? Vous en avez entendu parler dans les journaux ? Vous avez vu ? Vous l'avez sûrement signalé, mais on n'en a pas tellement parlé, championne de France. Mais au niveau de la fédération, on continue à leur faire des voyages aux quatre coins de France, alors qu'elles n'ont pas de moyens financiers. Donc, je me pose aussi la question, pourquoi ?
On sait que la ministre Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a ce sujet bien à l'esprit parce qu'elle tente là encore de faire en sorte que ces matchs soient regardés à la télé, soient vus, soient intégrés dans les programmes et notamment dans la perspective des Jeux Olympiques sur laquelle vous allez travailler vous-même.
Ben, 2024 est quand même une grande année. Même s'il y a des tiraillements parfois sur l'organisation, c'est quand même une grande année puisqu'on reçoit les Jeux Olympiques et donc ça c'est extraordinaire. Et c'est vrai que par rapport à cette dynamique-là, on va mettre un petit peu le focus au niveau de Femmes 3000 et en tout cas dans notre région, au niveau de notre délégation, pour qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on est déjà avec le hand, on les soutient, on les accompagne, on les aide. Également avec le rugby, puisqu'on a notre délégation du Pays Basque, on a une ancienne championne de France de rugby qui est là-bas, donc j'ai échangé avec elle semaine dernière, donc elle va venir nous voir mettre en place, on va rencontrer donc l'équipe de rugby, on va y aller prochainement, et l'équipe de foot, puisqu'on a déjà rencontré l'entraîneur de foot, donc on va un petit peu faire le focus sur ces sports collectifs. C'est vrai qu'on est plus dans une dynamique de sport collectif, voilà, faut faire des choix, on peut pas être partout.
Avec une problématique dans le sport individuel, de ces femmes qui sont moins accompagnées en termes de sponsors, en termes de promotion, en termes de visibilité que les hommes, on le voit bien. On avait d'ailleurs animé un très beau débat à Midi Libre l'année dernière. Ouais. Et là aussi, c'est un sujet que vous suivez particulièrement parce que vous avez des membres de votre délégation qui sont d'anciennes sportives et qui connaissent ça.
Mais qui connaissent parfaitement ça, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de subvention ou très peu. Mmh. Elles sont obligées de travailler à mi-temps pour s'entraîner, alors que dans la même catégorie, vous avez des messieurs qui sont aidés financièrement, qui n'ont pas besoin d'avoir une activité complémentaire, comme je dis souvent, pour garnir leur bas de page, et qui peuvent faire le sport tout à loisir quand ils le souhaitent, et comme ils le souhaitent pendant effectivement tout un mois ou sur plusieurs mois, alors qu'elles sont obligées effectivement de travailler. Ça, il faut qu'on m'explique. Moi, j'aimerais bien, effectivement, vous avez rencontré la ministre des Sports, moi, j'aimerais bien qu'elle m'explique les raisons pour lesquelles aujourd'hui les aides arrivent principalement sur le sport masculin et pourquoi ces aides-là ne seraient pas égalitaires sur le sport féminin. Pourquoi ? J'ai presque envie de lui poser la question.
On voit bien que sur ce sujet sportif, comme le sujet de l'égalité des salaires et la place des femmes dans les entreprises, ça ne peut pas être simplement une invitation. Il faut imposer, il faut un peu d'obligation. Est-ce que vous estimez que les pouvoirs publics font suffisamment et vers quoi devrait-il aller ?
Est-ce qu'ils font suffisamment ? Lorsque vous leur posez la question, ils vous disent « ben, on peut pas aider tout le monde et on n'a pas les moyens d'aider tout le monde ». Donc ils priorisent. Et ils priorisent qui ? Le top niveau. Mmh. Et moi je dis, est-ce que vous pensez que le top niveau, est-ce que le top 14 a besoin de fonds ? Est-ce que effectivement le hand qui est en première division a besoin de fonds ? Est-ce qu'il continue à les aider de la même manière qu'avant, me semble-t-il, hein, parce que sinon il y en a qui vont dire mais pas du tout. Il continue alors que le sport féminin de deuxième niveau, avant d'arriver au premier, il faut déjà financièrement leur permettre de pouvoir s'entraîner, des infrastructures et permettre à ces joueuses, ben, financièrement, de pouvoir subvenir aux besoins de leur sport. Chose qui n'est pas faite. On continue à aider le haut niveau. C'est bien, mais peut-être que c'est trop. Moi, je dis 10%, c'est pas beaucoup. Est-ce que vous pourriez, messieurs du top 50 ou du top 14, du top 10, comme vous voulez, donner 10%? 10%, pas 20, pas 30, juste 10%. Mais vous verriez qu'effectivement, pour le hand aujourd'hui, il pourrait avoir un quart pour accompagner les sportifs quand on veut faire des matchs. Juste ça, juste un quart, une infrastructure hôtelière. Voilà, juste vraiment payer les frais, juste pour qu'elles puissent se déplacer dans de bonnes conditions. 10%, c'est pas beaucoup, et en même temps, c'est énorme.
Ce sont des sujets que vous avez évoqués avec Mickaël Delafosse, maire de Montpellier, président de la métropole, parce que un des aspects aussi de Femmes 3000, c'est le réseau, hein, au global, et qui compte aujourd'hui, évidemment, en 2023. Et donc, ce sont des sujets que vous avez pu échanger avec lui.
Alors, on a eu la chance d'avoir Mickaël Delafosse, et je la remercie encore, qui est venu lorsqu'on a fait notre soirée de rentrée, qui est venu nous rencontrer, et il a eu un discours extraordinaire. Il est très, effectivement, sur l'égalité homme-femme, et il est très sensibilisé à ça, et il le montre tous les jours. Et effectivement, il a dit haut et fort qu'il avait besoin aujourd'hui de partenaires, entreprises, quelque part, qui sont implantées dans la métropole, et en disant, est-ce que ces entreprises peuvent accompagner à leur niveau tous les sportifs et sportives qui gravitent, parce que nous, on les aide, mais on ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire. Et bon, il a été, je crois qu'il est d'un secours et d'un investissement réel pour tout ce qui tourne autour du sport, et en tout cas de tout ce qui est égalité homme-femme. Je crois qu'il est très sensible à l'égalité homme-femme.
Femmes 3000, alors c'est une association que l'on voit partout. J'ai l'habitude de bouger beaucoup,
gentil,
autant que vous.
Merci,
et donc
merci.
Je vous vois dans beaucoup de relais, beaucoup de partenariats. C'est aussi une de vos volontés, vous qui êtes présidente depuis 7 ans de cette fédération Languedoc-Roussillon.
Alors, on a besoin de partenariats. Pourquoi ? Toutes les associations vous diront la même chose. On est toutes bénévoles. Je dis bien toutes bénévoles. Toutes les actions que l'on met en place avec mon équipe, ben, elles ont un coût. Et ce coup, j'arrive à monter toutes ces actions sportives et autres parce que j'ai des partenaires entreprises qui m'accompagnent. Et je dis souvent ce que je disais dernièrement, vendredi dernier, quand on a fait notre réunion sur Paris avec toutes les présidentes. Mon choix au niveau de la région, c'est que mes manifestations ne soient pas payantes. C'est mon choix personnel. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que le problème financier empêche les personnes de venir nous rencontrer. Parfois 10 euros c'est beaucoup pour certains, 20 euros aussi. Donc les personnes viennent nous rencontrer, on va effectivement échanger autour d'un verre, autour d'un petit four et autres. Comme ça elles prennent connaissance de qui nous sommes, pourquoi, ce que nous faisons, et elles passent, j'espère, un bon moment avec nous. C'est ma volonté lorsque j'ai mis en place la délégation Languedoc-Roussillon. Ce qui fait que je dis souvent, je prends ma petite mallette et je vais voir les entreprises en disant, écoutez, aidez-nous, vous êtes nos partenaires, on va vous mettre en valeur, et c'est normal, parce qu'on est, gagnant-gagnant. On est gagnant-gagnant tous les deux, mais moi, en même temps, j'ai besoin que vous m'aidiez pour justement nous faire connaître, organiser des soirées avec vous. Donc, oui, effectivement, on a besoin de partenariats entreprises aussi.
On parlait tout à l'heure de l'utilité, la pertinence de Femmes 3000, 25 ans après sa création. Plus que jamais, probablement, dans notre pays, qu'on dit fracturé, et à raison d'ailleurs, par beaucoup de bouleversements, d'incertitudes et de doutes, l'association, c'est encore le ciment de notre société.
Oui. Je crois qu'on n'a jamais été autant seul, surtout depuis, effectivement, les confinements et le problème de Covid qu'on a vécu, extrêmement douloureux, et j'ai beaucoup d'adhérentes qui ont énormément souffert, et je pense qu'heureusement qu'on était là. Parce qu'on a été des oreilles attentives, on a pu accompagner, on a pu organiser des webinaires pour que chaque personne ayant un métier puisse le faire connaître, puisse partager, puisse échanger. Et je crois qu'on est aujourd'hui, les associations, un petit peu le ciment pour ce côté de gens qui... Moi, je crois que l'individualisme est de plus en plus présent. Et le fait de pouvoir se rencontrer, ben, ça soulage beaucoup de personnes. Et elles le disent, on a passé une délicieuse soirée, je vais mieux ce soir. Donc c'est extraordinaire comme retour.
Ça vous inquiète ce qui se passe en France aujourd'hui ?
Oui, mais en même temps, je vais vous avouer quelque chose, mais j'espère que ça restera entre nous. Que ce soit pareil, ce sera pas ébruité. Quant à la télévision, au bout d'un certain temps, on a commencé à énoncer le nombre de morts. J'ai changé de chaîne. Je me dis, je vais pas commencer à m'angoisser, m'empêcher de dormir. Et je crois que ce phénomène-là a atteint et a touché énormément de personnes. On dit, c'est moi demain. Donc, du coup, la dynamique que j'avais, l'envie de faire, pour certains, elle s'est arrêtée là. Ouais. Et moi, je dis, j'ai pas envie que ça impacte mon dynamisme et ma passion. Je veux rester quelqu'un de passionné, quelqu'un d'investi, quelqu'un qui tend la main aux autres. Donc, j'ai changé de chaîne.
Et à la fois, ce que vous dites dans le prolongement, c'est vrai qu'on a trop tendance à penser que rien ne fonctionne. Et au quotidien, et vous le voyez bien au travers de votre fédération, il y a beaucoup d'optimisme dans les entreprises, les associations, collectivement. Les gens ont envie de réussir.
Oui.
Et d'avancer.
Oui, oui. Oui, les gens ont envie d'avancer, envie de réussir, envie de se rencontrer, envie d'échanger. Moi, je suis surprise agréablement de voir que sur Montpellier Région, il se passe quelque chose tous les soirs. Tous les soirs. Si vous voulez sortir, vous pouvez sortir tous les soirs de la semaine. Mmh. Et parfois, le même soir, il se passe 3-4 événements. Donc, si on veut écouter de la musique, si on veut participer à une émission culturelle, si on veut participer à une soirée sportive, si on veut écouter la radio à Viva, eh bien, c'est possible, effectivement, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et les gens sont friands de ça, et c'est bien, parce que ça les sort de leur quotidien. Et c'est pour ça qu'ils sont optimistes aujourd'hui.
Alors moi, je vous connais depuis quelques années, mais les auditeurs et auditrices qui vous écoutent en ce moment ont bien compris que j'ai face à moi une vraie passionnée, pleine d'énergie, pleine d'enthousiasme. Il vous en faut beaucoup quand même pour ne plus sourire.
Alors, moi, c'est mon caractère. Comme je dis tout le temps, pour moi, le verre est toujours à moitié plein. Je sais qu'il est vide parfois, mais il ne m'intéresse pas. Donc, je regarde uniquement celui qui est plein. Et j'ai toujours dit, le jour où ce que je fais au niveau de Femmes 3000 ne me passionne plus, j'arrêterai. Je ne sais pas faire les choses sans passion. J'ai besoin de m'investir, j'ai besoin de croire aux gens, j'ai besoin de travailler avec eux, j'ai besoin de monter des projets. Et ça me transcende. Et le jour dont vous le saurez, si un jour j'arrête Femmes 3000, c'est que j'ai plus la passion. Mais pour l'instant, je vous rassure, je suis là encore pendant quelques années.
J'étais pas très très inquiet pour être honnête avec vous. Comment va se produire 2024? Alors le 25e anniversaire le 14 décembre, ça sera la grande soirée en effet de Femmes 3000. Est-ce que vous avez un ou deux projets à l'esprit déjà pour les mois à venir?
Alors, ces dernières années, on a essayé, comme je vous le disais, au niveau de notre délégation, aussi bien dans une dynamique sportive, dans une dynamique culturelle, dans une dynamique même politique et autres. Et on a d'ailleurs invité, je crois que vous l'aviez d'ailleurs rencontré, il avait énormément apprécié, Yves Striou, qui mm-hmm. était le directeur général du travail de Muriel Pénicaud. Et donc, on l'a fait venir. Et lui, il est vraiment, enfin, les autres aussi, mais lui particulièrement, investi dans la cause féminine. Je me souviens, lors du débat, pour lui, il était inconcevable. Il disait que dans toutes ses unités, il se battait là-dessus. Quand les femmes reviennent de la maternité, elles doivent retrouver leur poste. Et ça, c'était son cheval de bataille. Il disait, il est totalement inadmissible quand elles reviennent, qu'on les mette à un autre poste ou dans un placard. Et donc, c'est quelqu'un que j'ai invité, tout simplement parce que c'est un passionné. Hein, il a un cursus magnifique tout au long de ses années, indépendamment de son poste de directeur général du travail. Mais il est vraiment investi dans la cause féminine. Donc, je vais essayer de le faire revenir. Parce que comme il adore écrire, il adore, et je sais que, mais ça pareil, je ne l'ébruiterai pas. Il est en train de commencer un livre sur la révolution à nos jours, sur le droit, l'évolution du droit du travail, de la législation, de la réglementation tout au long de ces années. Et donc j'espère bien le faire venir, comme j'espère faire venir Muriel Pénicaud pour notre dernière, le 14 décembre, donc pour qu'elle vienne nous parler. Justement, de que se passe-t-il aujourd'hui sur la place de la femme dans l'entreprise et dans le monde politique, parce que le monde politique, elle connaît bien.
Muriel Pénicaud, qui était notre invitée d'honneur au 5e anniversaire du Fil Rouge, oui. Midi Libre, dont vous êtes d'ailleurs un des membres qui a été lancé avec Christine Ginel il y a 5 ans. Il faut les associations, on voit bien, hein, c'est une association d'associations qui permettra
exactement.
Que ça change.
C'est exactement ce que vous dites. Moi, je dis souvent, les amis de mes amis sont mes amis. Ça veut dire, une association, on peut aider notre association, on peut effectivement, et le Fil Rouge, effectivement, moi, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je suis ravie que ça perdure, parce qu'il faut que ça perdure. Ça permet aux jeunes créatrices de se rencontrer, de monter en compétences. Et moi, j'ai eu dernièrement une personne qui m'a dit, est-ce que je peux adhérer chez vous? Parce que je me sens seule dans mon métier. Et je travaille tellement que je rencontre personne et je me rends compte que je me sclérose. Mmh. Est-ce que je peux venir vous rencontrer ? Et c'est comme ça que je l'ai présenté à Christine Ginelle en disant c'est vraiment la personne qu'il vous faut au niveau du fil rouge parce que c'est ce que vous êtes en train de promouvoir par rapport à, ce, à cette action-là.
Alors si on a envie de vous connaître, on a un site internet, évidemment.
Bien sûr.
Rappelez-nous les, peut-être les coordonnées.
Alors les coordonnées, ben, vous allez Femmes 3000 Languedoc-Roussillon, vous cliquez, vous allez voir nos dernières actions. Vous avez un petit carré à droite où il y a marqué adhérer. Donc alors pour l'adhésion, vraiment, n'hésitez pas, c'est 80 euros. Vous avez bien entendu, à l'année, et vous êtes adhérente, et vous pouvez venir nous rencontrer et assister à nos soirées. Donc n'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai.
Merci beaucoup Aline Bouix, présidente de Femmes 3000, délégation du Languedoc-Roussillon. Ce fut un plaisir, merci beaucoup.
Merci également.
Bonne plaisir. Soirée à toutes et à tous.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaye.